Bonjour et bienvenue, c'est lundi 23 avril 2018, Hélène Denis qui vous accompagne à l'émission Le quotidien des quotidiens. Bonjour Jean-Sébastien.
Bon début de semaine, Hélène.
Alors, le printemps pour vous, ça a été en fin de semaine?
Oh oui, oh que oui, il était temps.
Ah oui. Quel beau deux jours de plein soleil avec de plus en plus de chaleur. Hier, il y avait des gens de bonne humeur. J'ai fait une longue promenade, puis tout le monde souriait. On se connaît pas, puis on sourit. C'est pas comme ça que ça se passe l'hiver, n'est-ce pas?
Non, non. Quoique, bon, il y a de l'entraide quand il y a des tempêtes de neige.
Oui, c'est vrai.
Il y a beaucoup de solidarité,
c'est vrai que
on
s'entraide
dans
sa cran.
Mais c'est vrai que le retour du soleil ramène des sourires.
Oui, alors, ben vous ramenez à Canalem. Vous avez été absent quelques jours la semaine dernière. Moi, j'étais pas là vendredi. Merci, François Brodeur, en passant, qui était aux commandes de Le quotidien des quotidiens. Vous étiez là vendredi, mais pas à la mise en onde.
Non, non, exactement. Donc, c'est mon retour au micro et à la console aujourd'hui.
Et aux éphémérides.
23 avril, journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Pourquoi? Eh bien, je vous le dis en fin de chronique. Événement marquant pour ce 23 avril, d'abord en 1743 à Londres, première représentation du Messie de Handel, qui a reçu une ovation debout, et c'est, semble-t-il, la première ovation debout recensée. Donc 1743 pour cette première ovation, 1792 à Strasbourg, composition du chant de guerre pour l'armée du Rhin, qui est devenue par la suite la Marseillaise. 1938, venant de Cork et arrivant à New York, le Sirius anglais est le premier navire à traverser l'Atlantique à vapeur seulement en 18 jours. 23 avril, oui, n'allons pas trop vite, 1848, par la suite d'un soulèvement de février et de la fuite du roi, les premières élections au suffrage universel ont lieu à Paris. 1851, parution du premier timbre-poste canadien, représentant un castor et la couronne d'Angleterre. 1857, inauguration du premier ascenseur, c'était dans un grand magasin, et c'était construit par Elisha Graves Otis, Otis qui est maintenant une compagnie d'ascenseurs bien connue. 1916, insurrection de Pâques débute en Irlande, toujours un 23 avril. Beaucoup de choses en ce 23 avril. 1928, la Cour suprême du Canada prétend que les femmes ne sont pas des personnes au sens de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. On sait que par la suite...
quand j'entends ça, c'est...
Oui, oui, ça... autre temps, autre mœurs, mais tout de même, donc on apprendra par la suite que oui, les femmes sont bel et bien des personnes. Ça sera approuvé par la Cour supérieure d'Angleterre.
Il y en a pour qui c'est pas encore le cas, mais...
Non, ça c'est une triste réalité. Ouais. 1933, le Reichstag donne les pleins pouvoirs à Adolf Hitler. 1980, 23 avril, l'incendie est éteint. Le 3 juin 1979, dans le golfe du Mexique, une éruption de pétrole a soufflé la plateforme de forage offshore Ingstock 1. L'incendie a brûlé entre 470 000 tonnes et 1 500 000 tonnes de pétrole durant 295 jours, 23 avril 1980, après 295 jours d'incendie, l'incendie est éteint.
C'est presque un an.
Une catastrophe écologique qui a dû faire énormément de ravages. 1987, Ottawa annonce qu'il sera interdit de fumer dans tous les locaux relevant du fédéral. 1995, début du procès de O.J. Simpson. 1998, le film Titanic remporte 11 statuettes, 11 Oscars, égalant le record du film Ben-Hur.
I'm the king of the world!
2001, le bras robotisé canadien long de 20 mètres se déploie sur la Station spatiale internationale, lui qui avait été installé la veille, entre autres, par le Canadien Chris Hadfield. 2001, toujours la station orbitale Mir, qui est arrivée en fin de vie, tombe dans l'atmosphère et se désintègre au-dessus du Pacifique Sud entre l'Australie et le Chili. Toujours en 2001, Wikipédia francophone voit le jour. 2002, ouverture à Londres d'une exposition de cadavres qui avait fait beaucoup, beaucoup jaser, ces cadavres plastifiés, pour qu'ils représentaient l'intérieur du corps humain.
L'aviez-vous vu, l'exposition?
Non, il y avait eu un petit documentaire de quelques épisodes qui avait passé à la télé où on éventrait des cadavres pour par ce même monsieur Huggins, mm-hmm. Günther von Huggins. Et ces documentaires d'une heure, je crois qu'il y en avait quatre. Je n'ai rarement plus écouté plus de 7 ou 8 minutes. C'est quelque chose.
Je vous comprends.
Et je tais ces propos afin de ne pas vous lever le cœur en cette matinée.
Ouais, ouais.
Je poursuis rapidement. Le 23 avril 2010, des médecins de Barcelone ont réussi à mener la première greffe complète du visage. Et c'était en 2014, le 23 avril, que Philippe Couillard nomme Gaétan Barrette à la santé. Ça fait déjà 4 ans que nous avons notre bon ministre de la Santé, M. Barrette. Naissance en ce 23 avril du compositeur Sergei Prokofiev, né en 1891. 1897, naissance du premier ministre canadien Lester B. Pearson. Et 1888, le gouverneur général Georges Phileas Vanier. 23 avril, c'est l'anniversaire de décès de deux grands noms de la littérature.
Ah,
donc,
oui?
Je vous le disais en début de chronique, Journée mondiale du livre et du droit d'auteur.
En lien.
23 avril 1616,
Shakespeare
disparaît. Ah. Et également, 23 avril 1616, le poète espagnol Miguel de Cervantes Saavedra, lui qui nous a donné, bien sûr, Don Quichotte de la Manche. Si vous avez bien écouté, 23 avril 1616 pour ces deux hommes qui sont disparus à 10 jours d'intervalle. Donc, rapidement, pour mettre fin à cette petite chronique, les deux poètes, les deux dramaturges sont disparus le 23 avril 1616. Mais en Angleterre, on avait encore le calendrier julien, tandis qu'en Espagne, on avait le calendrier grégorien. Donc, les deux
Mystère
sont morts
résolu.
La même date. Les deux sont décédés la même date, mais pas le même jour.
Alors, bonne journée. Est-ce qu'on dit mondial, international?
Mondial.
Bonne journée mondiale du livre. Et on lit, on achète des livres, on va à la bibliothèque. Et on se cultive, mais on ne tousse pas. À la une de la presse aujourd'hui exclusif, Montréal veut éviter l'effet Big Brother. Un rapport obtenu par la presse détaille comment la métropole peut éviter les dérives en se dotant d'un code d'éthique sur la collecte de données et ainsi protéger la vie privée des Montréalais. Sport, Fed Cup, improbable victoire, les Canadiennes surprennent leurs adversaires ukrainiennes. Une question qui dérange. Est-ce raciste de demander à une personne qui porte un nom à consonance étrangère d'où elle vient? Et une autre exclusivité, cette fois-ci dans le domaine des affaires et de la gastronomie. On voit Normand Laprise, propriétaire du Toqué. Grande expansion au menu de Toqué. Également, Christiane Lamarche, tout à côté de Normand Laprise. Alors, on y va avec le premier titre, « Collecte de données et protection de la vie privée. Montréal veut éviter l'effet Big Brother ». Avec la prolifération des systèmes qui colligent des tonnes de données sur les citoyens, la Ville de Montréal veut éviter l'effet Big Brother. Un rapport obtenu par la presse détaille comment la métropole peut éviter les dérives en se dotant d'un code d'éthique sur la collecte de données et ainsi protéger la vie privée des Montréalais. Surtout, l'administration Plante n'entend pas imiter Toronto, qui a confié à Google le mandat d'implanter une foule de capteurs, préférant garder le contrôle sur les informations colligées. Avec le déploiement rapide de la fibre optique dans l'île, l'arrivée prochaine du réseau 5G et les avancées dans les systèmes de collecte de données, souvent appelés Internet des objets, Montréal s'inquiète des risques pour la vie privée de ses citoyens. Pour l'heure, les systèmes intelligents sont limités dans la métropole québécoise. Des feux de circulation connectés, des appareils qui évaluent en temps réel l'achalandage dans le quartier des spectacles, mais de nombreux autres sont à prévoir. La Ville travaille, par exemple, sur un projet de capteur qui détecte les cases de stationnement vacantes afin d'orienter les automobilistes cherchant à se garer. « Toutes les villes s'en vont vers ça », dit François Croteau, élu responsable de la Ville intelligente. Alors, avant d'avoir une stratégie de déploiement, on a des questions à se poser pour éviter une dérive. On veut éviter une situation qui s'apparenterait à Big Brother. Pour éviter les dérapages éthiques, la Ville de Montréal a commandé une étude au Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services, qu'on appelle CIREG, de Polytechnique Montréal. Son rapport de 85 pages que la presse a obtenu définit de nombreuses menaces, notamment que la collecte de données encourage le profilage et la discrimination ou brime la vie privée des citoyens en permettant de les suivre à la trace à leur insu. On sait qu'avec un algorithme, seulement 4 données de géolocalisation permettent d'identifier une personne sans qu'elle se soit elle-même identifiée, illustre François Croteau. On a tous Big Brother en tête et on ne veut pas y arriver. Les chercheurs recommandent ainsi à Montréal d'adopter 11 principes pour encadrer l'utilisation des données, à éviter les dérives. Et parmi ces principes, transparence sur la collecte des données, qui récolte, quelles données, quand, où, comment et dans quel but, protéger et respecter la vie privée des citoyens, assurer le traitement juste et impartial des données pour éviter le profilage et la discrimination, assurer la sécurité des systèmes pour prévenir les attaques informatiques. À l'issue de leurs travaux, les chercheurs du CIREG ont constaté que d'importantes questions restent encore à régler, notamment celle du consentement. Jour de la Terre. 1 milliard de citoyens de partout dans le monde se mobilisaient hier pour le Jour de la Terre, une célébration de la nature qui se perpétue tous les 22 avril depuis 1990. Le Jour de la Terre au Québec, c'est 650 000 arbres plantés, 112 095 cellulaires et accessoires recyclés ou réemployés, 101 000 barils récupérateurs d'eau, composteurs et autres articles écologiques distribués, 584 activités environnementales à l'année, 526 activités pour célébrer le Jour de la Terre 2018. La ministre fédérale de l'Environnement, Catherine McKenna, était en Nouvelle-Écosse hier. Elle a lancé le Dialogue canadien sur les déchets de plastique, une consultation publique en ligne pour trouver des solutions au plastique dans les océans. Coût de la mission de 7 jours en Chine dirigée par le premier ministre Philippe Couillard en janvier dernier, selon les données obtenues par la presse canadienne en vertu d'une demande d'accès à l'information. Il s'agit d'une des missions les plus importantes et certainement l'une des plus coûteuses du gouvernement Couillard. La somme de 610 000 n'inclut pas non plus les frais de l'équipe de sécurité gardée confidentielle, ni ceux du photographe officiel du gouvernement, des employés de cabinet ou de la femme du premier ministre, Suzanne Pilote. Une nouvelle voiture solaire à Polytechnique. Les étudiants de Polytechnique Montréal dévoileront ce soir la dernière mouture de leur voiture solaire, Esteban 9. Les normes de la compétition nord-américaine à laquelle ils participent ont changé et la surface maximale des panneaux solaires a diminué. Cette nouvelle contrainte les a obligés à améliorer l'aérodynamisme d'Esteban en déplaçant le pilote du centre vers le côté pour que la protubérance due à ses fesses soit alignée avec les roues. En chiffres, 115 km à l'heure, vitesse de pointe d'Esteban 9, 75 km heure, vitesse de croisière d'Esteban 9 partant ensoleillé, 6 heures, autonomie d'Esteban 9 partant nuageux. Environ 4 000 élèves de Vaudreuil-Dorion et d'Orval seront privés de transport scolaire ce matin en raison d'une grève de leurs chauffeurs d'autobus, Par contre, les 2500 écoliers de la Rive-Sud qui risquaient eux aussi de se retrouver sans transport scolaire pourront se rendre à l'école en autobus puisque ces chauffeurs ont accepté de ratifier un nouveau contrat de travail. Ainsi, les commissions scolaires des Trois-Lacs à Vaudreuil-Dorion et Lester B. Pearson à Dorval seront touchées par cet arrêt de travail dont on ignore la durée puisqu'il s'agit d'une grève générale illimitée. La grève n'annule toutefois pas la tenue des classes. Réunis en assemblée, les travailleurs des autobus Lucien Bissonnette, qui étaient présents à la rencontre, ont voté à 78 % contre les dernières offres patronales. Afghanistan, près de 60 civils chiites, pour la plupart, ont été tués et 120 blessés hier à Kaboul dans un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique, EI, contre un centre d'enregistrement pour les élections législatives. Un kamikaze s'est fait exploser dans la matinée parmi une foule dense à l'entrée du centre où les électeurs récupéraient leurs pièces d'identité avant de s'inscrire sur les registres électoraux. Au moins 21 femmes et 5 enfants figurent au nombre des morts, a précisé le porte-parole du ministère de la Santé, et 47 femmes et 16 enfants parmi les blessés. Les talibans ont fait savoir rapidement qu'ils n'avaient rien à voir avec l'attaque d'aujourd'hui, rejetant implicitement la responsabilité sur l'EI, qui a ensuite revendiqué l'attentat. L'attentat s'est produit dans le quartier majoritairement chiite de Dasht-e-Barchi, dans l'ouest de Kaboul. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, le kamikaze est arrivé à pied et a déclenché sa charge au milieu de la foule. Il s'agit du premier attentat à Kaboul contre un centre préparant les listes électorales en vue des législatives du 20 octobre depuis le début des inscriptions, le 14 avril.
Je connais pas le nom des étoiles dans le ciel, ni des rivières, ni des oiseaux. Honte à moi trop souvent, je connais pas le chemin qu'il me faudra prendre pour être content. Je connais pas la couleur d'un bill de vin. Je connais même pas le nom de mon voisin. Je connais rien, mais il va toujours y avoir la neige au mois de janvier. Il va toujours y avoir un feu de forêt dans le temps des Belois. Toujours y avoir du vent sur le Saint-Laurent. Tu peux pas changer ça. Chante-moi pas, mais vas-tu toujours y avoir de l'eau dans mon vin. Il va-tu toujours y avoir quelque chose en moins quand tout ce que t'as c'est une tranche de pain. Quand le vent souffle, moi je sais d'où c'est que ça vient. Y en a qui ont tout, puis toutes les autres qui ont rien. Change-moi ça.
La poésie du grand Richard Desjardins avec la pièce « Il va toujours y avoir ».
Et oui, il va toujours y avoir de la neige au mois de janvier, mais aussi du beau soleil chaud au printemps, tout qu'on l'espérait tant, et justement la photo du devoir, enfin la chaleur. Les Montréalais ont pu tirer un trait sur l'hiver en fin de semaine, profitant du soleil et de la chaleur printanière. Ils ont enfin eu l'occasion de se promener dans les parcs et pour la première fois de l'année de déjeuner sur les terrasses des restaurants. Le beau temps qui se poursuivra durant les prochains jours entraînera cependant la surveillance de certains cours d'eau qui pourraient créer des inondations. Et sur la photo, deux hommes en plein air, assis en train de jouer de la musique. Sondage, un appui au retour du baseball, mais pas à tout prix. Les Québécois s'opposent au financement public du projet montréalais. Corps queer, corps dansant, célébrant la singularité et se moquant des frontières, le corps queer est un espace de liberté et de solidarité. On a une photo de deux danseurs. L'Agora de la danse s'apprête à recevoir des œuvres pour le moins intrigantes, comme « Les rois de la piste » du chorégraphe français Thomas Lebrun. Naissance d'une coalition pour promouvoir le plein air au Québec. Réaliste, la nouvelle politique de mobilité durable, suivez notre série. Politique fédérale, retour sur le Congrès libéral, Nature commune, une chronique de Jean-François Nadeau, et En Turquie, la route vers la dictature, une chronique de François Brousseau. Le rêve du retour des exploits à Montréal ne s'est pas éteint avec la défaite électorale de Denis Coderre en novembre dernier. Près de 3 Québécois sur 5 souhaitent voir une équipe de baseball professionnelle s'installer dans la métropole, mais pas à tout prix. Une forte majorité estime que les gouvernements ne doivent pas investir de l'argent public dans le projet, révèle un sondage Léger réalisé pour Le Devoir. Porté par Denis Coderre depuis son arrivée à l'Hôtel de Ville de Montréal en 2013, le projet du retour des expos a refait surface au début du mois d'avril, lorsque la mairesse Valérie Plante a accepté de rencontrer les hommes d'affaires Stephen Brofman et Mitch Garber pour en discuter. Elle a alors répété qu'elle était prête à appuyer la venue d'une équipe de baseball professionnelle à Montréal, mais qu'elle n'investirait pas un sou dans l'aventure sans d'abord consulter les Montréalais. Les résultats du sondage Léger réalisé entre le 13 et le 15 avril indiquent que la plupart des Québécois partagent sa vision. 58% des répondants souhaitent le retour d'une équipe de baseball professionnelle à Montréal, alors que 27% n'en veulent pas. Les Québécois sont cependant aussi nombreux, 58%, à rejeter l'idée que les gouvernements municipal, provincial ou fédéral investissent des fonds publics pour permettre au projet de se concrétiser, alors que le tiers des répondants, 32%, appuie l'injection d'argent public. Congrès du Parti libéral du Canada, Scheer n'est qu'une version souriante de Harper, dit Justin Trudeau. Le chef du Parti libéral du Canada a laissé tomber les gants samedi après-midi en donnant un avant-goût des attaques qu'il réserve à son adversaire Andrew Scheer pour la prochaine campagne électorale. Selon Justin Trudeau, le chef conservateur n'est qu'une version souriante de Stephen Harper, qui ramènera les mêmes politiques réactionnaires que défendait l'ancien premier ministre. Les 15 résolutions, priorisées parmi les militants. Alors, je répète, les 15 résolutions priorisées par les militants libéraux sont: instauration d'un régime d'assurance médicaments universel en première place, suivi de couverture des soins en santé mentale, décriminalisation de toutes les drogues, décriminalisation de la prostitution, protection des régimes de retraite des travailleurs, instauration du revenu minimum garanti, création d'un ministère des aînés, financement de logements abordables, retrait des tarifs douaniers sur les produits menstruels, élargissement des infrastructures de télécommunications dans les régions éloignées, construction d'un pont reliant Terre-Neuve à la terre ferme, élaboration d'une politique sur les océans, consolidation du système de santé, rédaction d'une carte des droits environnementaux, d'une charte, dis-je bien, et création d'emplois pour la classe moyenne. Chose certaine, il semble que les libéraux sentent la menace sur le flanc droit uniquement. Toutes les attaques du chef pendant son discours ont été réservées aux conservateurs. Justin Trudeau n'a fait aucune allusion au chef du NPD, Jagmeet Singh, et encore moins au Bloc québécois de Martine Ouellet. Il ne reste plus qu'une semaine aux contribuables canadiens et québécois pour faire parvenir leurs déclarations de revenus qui doivent être transmises au plus tard le 30 avril. Les retardataires s'exposent à payer des intérêts et des pénalités sur tout solde dû. Le respect de la date limite permet également d'éviter toute interruption du versement des paiements de prestations et de crédits. Si un contribuable ne peut payer un solde dû, l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec recommande d'envoyer quand même sa déclaration avant la date d'échéance pour éviter de payer la pénalité pour production tardive. Malgré des progrès substantiels ces dernières années, seulement 4 Québécois sur 10 ont officialisé leur consentement au don d'organes et de tissus dans un des deux registres mis à leur disposition. C'est pourquoi les intervenants reviennent à la charge et pressent les Québécois de signifier leur décision par écrit et à leurs proches alors que débute la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Plus de 3 millions de personnes ont dit oui au don d'organes par l'entremise du registre de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et 1,6 million ont signalé leur consentement dans le registre de la Chambre des notaires du Québec. Alors que le 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles du Canada approche à grands pas, le commissariat aux langues officielles invite les Canadiens à donner leur opinion sur des aspects très concrets de la loi par l'entremise de consultations publiques en ligne. Le nouveau commissaire, Raymond Théberge, rappelle que la société canadienne a été marquée par de nombreux changements depuis l'adoption de la première loi sur les langues officielles en 1969. La dernière révision majeure a eu lieu il y a 30 ans, en 1988. M. Théberge note que les nouvelles technologies et l'apport important de l'immigration, entre autres, ont modifié le visage du Canada, dont l'aspect linguistique. Pour remplir le questionnaire, il suffit de consulter la page Web des consultations en ligne à langue officielle au pluriel .gc.ca. Et le Parti social-démocrate allemand a élu samedi à sa tête l'ancienne ministre du Travail Andrea Nahles, qui devient la première femme à diriger la plus vieille formation politique du pays, avec pour mission de la sortir de la crise. Au cours d'un congrès extraordinaire à Wiesbaden, dans l'ouest du pays, Mme Nahles, 47 ans, dont 30 au sein du SPD, a obtenu 66 % des voix. On se retrouve après la pause et la chanson.
30.
Extrait de Florence K. Ça s'intitule « Des étoiles » de son album « Estrellas ».
En une du Journal de Montréal, sur la rive nord, des bouchons à 1,25 milliard de dollars. Il vous cache des choses. L'Assemblée nationale cancre de la transparence. Avions, repas, alcool, dépenses. Animaux Montréal, après les coyotes, voilà les dindons sauvages. Après les coyotes, ce sont maintenant les dindons qui surprennent des résidents de différents arrondissements. Pour rassurer ceux qui s'inquiéteraient de la présence de ces grands oiseaux en ville, l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie écrivait vendredi sur sa page Facebook que les dindons sauvages ne représentent pas de danger. Si vous croisez un dindon, continuez votre chemin comme vous le feriez pour un raton laveur ou un écureuil. Ne composez pas le 311, est-il écrit. Le 9 avril dernier, Peggy Filion, une résidente de Rosemont-la-Petite-Patrie, a rencontré l'un de ces imposants oiseaux dans une ruelle près des rues Lafont et d'Endurant. Le lendemain, Éric Massicotte, un conducteur d'autobus de la Société des transports de Montréal, croisait un spécimen sur son trajet dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Elle a carrément traversé la rue Notre-Dame avant d'aller se cacher, relate-t-il. Le plan de gestion du dindon sauvage au Québec 2016-2023 mentionne que, bien qu'en général, l'homme cohabite bien avec le dindon, parfois, la présence de ce dernier peut causer certains désagréments, dont des accidents routiers. Le coût de la congestion explose. Les automobilistes coincés sur les routes de la Rive-Nord perdent deux fois plus d'argent qu'en 2008. Les automobilistes de la Couronne-Nord n'en peuvent plus des bouchons de circulation qui leur coûtent maintenant 1,25 milliard par année, un montant qui a plus que doublé en 10 ans selon une nouvelle étude. Ces chiffres sont vertigineux, mais imaginez les économies que nous aurions faites si les investissements en transport avaient été faits au bon moment. Regardez l'autoroute 19, ça a pris plus de 40 ans, fait remarquer le maire de Laval, Marc Demers. Devant les impacts économiques de la congestion monstre causée par le manque d'infrastructures et d'offres de transport en commun, 18 maires des Basses-Laurentides et celui de Laval se réunissent aujourd'hui afin de réclamer des investissements à l'occasion d'un forum sur la mobilité. Aura de mystère autour des dépenses. Impossible d'obtenir le détail des dépenses des députés lors de leur mission à l'étranger. Ce qui se passe à l'étranger reste à l'étranger, du moins lorsqu'il est question des voyages des députés. Il est en effet quasi impossible de connaître le détail des coûts des missions parlementaires et des dépenses du président de l'Assemblée nationale, dénonce une poignée d'actuels et anciens élus. Seul le coût total de chacune de ces missions payées par les contribuables est public. Il nous a été impossible d'obtenir le fin détail de ce que les élus dépensent, par exemple, des factures de restaurants, d'alcool, d'avion, etc. Or, certains abuseraient, selon nos informations. En voyage, Jacques Chagnon, le président de l'Assemblée, paye la traite à tout le monde. C'est aussi pour ça que vous ne trouverez personne pour critiquer ouvertement ses dépenses. Cet ancien député qui a requis l'anonymat n'a pas été surpris lorsque notre bureau d'enquête l'a contacté pour discuter des dépenses du président de l'Assemblée. Tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Et personne n'en parle parce que tout le monde a la main dans la jarre à biscuits, dit celui qui a connu M. Chagnon comme président. Deux autres sources appuient ces propos quant aux dépenses de M. Chagnon. Près de 600 participants sont attendus cette semaine à Québec à l'occasion de la tenue d'une conférence internationale sur la violence à l'école et la réussite éducative. Des conférenciers provenant de 23 pays seront présents au Centre des congrès du 25 au 27 avril. Ce congrès sera axé sur l'importance de créer de bons milieux de vie pour nos enfants afin qu'ils se développent le mieux possible, explique Caroline Couture, présidente du Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. Parmi les thèmes abordés, on trouve la prévention pour assurer le bien-être des enfants, l'aide aux jeunes en difficulté, la réussite scolaire et le mieux vivre à l'école, de même que l'influence des technologies dans la vie des jeunes. Des mois à laver le plancher sans toucher un salaire. Un entrepreneur aurait floué des dizaines d'immigrés avec sa société d'entretien ménager. Des immigrés se disent trahis et humiliés après avoir croisé la route du patron d'une société de nettoyage qui aurait profité de leur naïveté pour les faire travailler gratuitement et soutirer à certains toutes leurs économies. C'est mon sang et ma sueur que j'ai mis dans cette affaire. 4 ans d'économie que j'ai perdu dans une arnaque, explique amèrement Abdel Moulazine, un résident permanent d'origine marocaine arrivé au Québec en 2014. Monsieur Zine fait partie de la dizaine de témoins, tous d'origine maghrébine, qui ont affirmé au journal avoir été floués par Madani El Bei, le patron de l'entreprise Dan Expert Pro. Après un mois de travail à nettoyer 6 jours par semaine un Jean Coutu du boulevard Henri Bourassa, M. Zine a constaté qu'il n'était pas payé et a donc arrêté de se rendre sur place. « Je partais en pleine nuit pour nettoyer les locaux », commente-t-il. « C'est un travail difficile et c'est très frustrant de faire ça, des semaines pour 0 $ ». Questionné au sujet des allégations le visant, Madani El Bei a estimé être la cible de personnes mal intentionnées et a mis en cause la communauté arabe. Madani El Bei, qui a accumulé une 20aine de poursuites au civil le visant dans les 2 dernières années, a tout de même reconnu devoir de l'argent à certains collaborateurs. Il a aussi menacé le journal de poursuites. C'est sa méthode de menacer les gens, explique un ancien franchisé qui a demandé à rester anonyme par crainte de représailles. Il m'a déjà dit que si quelqu'un touchait à sa réputation, il pouvait appeler la mafia italienne et faire brûler sa maison pour 1 000 $. Coincé au cœur des violences au Nicaragua. Un ingénieur québécois, Lavallois plus précisément, dit être coincé au cœur des révoltes qui ont fait plus de 20 morts et 100 de blessés au Nicaragua après s'être fait voler son passeport et son visa. « J'ai été réveillé par des coups de feu cette nuit. Certains axes routiers sont barricadés par l'État et je dois me rendre à Managua pour avoir un nouveau passeport. C'est risqué, je n'ai aucun papier », explique Martin Ouellet, un entrepreneur de 47 ans. Monsieur Ouellet a acheté une résidence à Lyon, il y a 4 ans. Depuis, il a fait plusieurs fois l'aller-retour entre Laval et le Nicaragua, où il vit quelques mois par année. En raison des émeutes qui font rage dans le pays depuis mercredi dernier, le gouvernement socialiste de Daniel Ortega a érigé certains barrages afin de contrôler des allées et venues des citoyens. M. Ouellet mentionne avoir encore accès à l'Internet, ce qui le rassure, mais il craint que le pays soit coupé du reste du monde. Un Bixi de Montréal aurait été repéré dans la ville de Rabat, au Maroc, au cours des derniers jours. Les photos diffusées par la page Facebook Spotted STM se sont répandues comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. C'est un peu particulier. On n'a aucune idée de la façon dont un Bixi a pu se rendre là, à vous, Henri Canan, Pierre Parent, directeur du marketing de Bixi Montréal. Sachez que seulement 0,1% des Bixi disparaissent. C'est assez rare qu'on voit ça et encore plus rare de les retrouver au Maroc, ajoute-t-il.
Avec des cousins qui les traquent dans le garde-robe au bout d'une corde. Y'en a pas une qui se protège de rêver d'être seule avec toi. T'es attirant comme un beau piège, tes lèvres brillent comme un appât. Je veux te dire comment je me sens, je suis vraiment bien avec toi. T'es fin, t'es doux, pis t'es veillant. T'as un beau sexe, je le veux pour moi. Les filles à soir font un cortège pour ramper jusque dans ton lit, pour commettre le grand sacrilège, aimer un blanc mouillé son nid. Je suis rêvée, ça les console. Je te transmets leur gratitude. Et les aiguilles de leur boussole s'en vont la nuit pointée au sud. Tu te demandes peut-être pourquoi je prends pas un homme de ma rivière. Quand il s'allonge auprès de moi, j'ai l'impression sont mes frères. Les gars ici m'arrachent beaucoup. Ils viennent au monde, c'est même banal, avec une flèche plantée dans le cou. Et quand ils partent, ça leur fait mal. Ils sont pris dans un capteur de songe. À la coop, va donc savoir. Ils achètent de la poudre à mensonge. Partent à la chasse aux idées noires. Quand leurs fusils ont tout vidé, ils prennent alors nos cœurs pour cible. Toi, tu m'as prise sans procéder. On aime un homme quand il est libre. Je sais pas pourquoi ça me fait penser. Peut-être une femme t'attend là-bas. Comment te dire sans te forcer? Y'a rien d'éternel ici-bas. Je sais parler comme ça, c'est pas bon. Faut m'excuser, je fais de mon mieux. Juste pour te dire qu'on fait des ponts où les rapides sont furieux. Souviens-toi de ce nom, Elsie. Comme du vent doux sur la toundra. Et si un jour ton cœur choisit, j'aimerais tellement qu'il vienne à moi. Et si jamais c'était le cas, faut que j'aille à Montréal, Stilton. M'amènerais-tu dans le bout de Boca, voir les couleurs, manger des pommes? Paraît que ton contrat achève, tu reprends l'avion à la fin du mois. Écoute un peu, je serai brève, tu vas me manquer, pas juste moi.
La magnifique voix d'Elisabeth Isaac, un extrait de son album There Will Be Stars, qui date de 2009.
La tournée des journaux régionaux, La Tribune, Simon Roberge, nettoyage près de la Saint-François, les bénévoles ont trouvé de tout. Plus d'une centaine de citoyens ont fait un grand ménage du printemps aux abords de la rivière Saint-François dimanche en ramassant des déchets. Les bénévoles ont trouvé de tout, de casseroles jusqu'aux matelas gonflables en passant par un radiateur. On a rempli une vanne au complet et une remorque aussi, a souligné Christine Labrie, bénévole pour Sherbrooke en transition et organisatrice de l'opération. Les déchets seront ensuite acheminés à Récup Estrie pour qu'on puisse les peser. Il y a vraiment beaucoup de déchets au printemps parce que ça s'accumule durant l'hiver et quand ça fond, on voit tout en même temps. Il y a beaucoup de mégots de cigarettes. Sherbrooke n'est pas différent des autres villes. Tous les milieux urbains ont ce devoir au printemps. Ce blitz de nettoyage s'est déroulé en marge du Jour de la Terre sous la forme d'un « plugging », une activité lors de laquelle on fait son jogging ou sa marche en ramassant les déchets que l'on croise sur son chemin. Certains courent, d'autres marchent. Il y a suffisamment de déchets pour tout le monde, a mentionné Christine Labrie. Les gens présents ici vont constater l'ampleur du problème et peut-être que ça va les sensibiliser pour ne pas attendre qu'on se réunisse de nouveau pour le faire. L'opération nettoyage était organisée en partenariat avec Action Saint-François, qui organise plusieurs activités par année pour sensibiliser les gens à la pollution de la rivière. Une famille greffée serrée, c'est dans le Nouvelliste, Mathieu Lapointe, Lamotte, dis-je bien? Tout le monde s'entend pour dire que la maladie d'une personne constitue une difficile épreuve pour l'ensemble des membres de sa famille. Imaginez ce que ça peut être lorsque trois sœurs se retrouvent affligées par une maladie grave et ce, en moins d'une vingtaine d'années. C'est ce que vit l'entourage de Carmen, Lise et Julie Dorval, trois sœurs d'une famille trifluvienne, qui ont vu leur santé et leur qualité de vie se détériorer drastiquement lorsque leurs reins ont arrêté de fonctionner correctement. Mais grâce aux dons d'organes, Lise et Carmen ont pu bénéficier d'une greffe de rein, ce qui leur permet de continuer à mener une vie quasi normale. Devant s'astreindre à des traitements d'hémodialyse plusieurs fois par semaine depuis maintenant 3 ans, leur jeune sœur Julie espère de tout cœur recevoir elle aussi l'appel tant attendu. C'est pour sensibiliser la population à l'importance de signer sa carte de don d'organes que les trois femmes ont accepté de se confier aux Nouvellistes en vue de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se tient jusqu'au 28 avril. « Si ce n'était pas du don d'organes, notre famille serait complètement décimée », lance spontanément Lise. Elle ajoute que ses sœurs et elle ne sont pas les seules à en avoir profité. Elles ont des oncles et des cousines qui ont également dû subir des traitements d'hémodialyse et qui ont eu des greffes de reins. Des membres de la famille du conjoint de Lise ont également eu des greffes d'organes, dont un qui a reçu un poumon. Même si la vie ne leur a pas fait de cadeau, les trois femmes ne se laissent pas abattre. Au contraire, elles mordent dans la vie à pleines dents et tentent toujours de voir le verre à moitié plein. Même Julie, qui est toujours en attente d'un nouveau rein, trouve toujours le bon mot pour taquiner ses deux sœurs. Et lorsque le moral est moins là, elles savent qu'elles peuvent compter les unes sur les autres afin de surmonter les épreuves auxquelles elles font face. Quand nous devons aller à nos rendez-vous, que ce soit à Québec ou à Montréal, on s'accompagne toujours, beau temps, mauvais temps. Il y a des fois où on partait dans la grosse tempête de neige et que l'on ne voyait ni ciel ni terre. Une de nos autres sœurs, la famille compte 5 sœurs et 2 frères, avait entrepris le processus pour savoir si elle pouvait être une donneuse compatible avec moi, mais ils ont trouvé un rein d'origine cadavérique avant, poursuit Lise, sous le regard approbateur et complice des deux autres. Alors que ces deux sœurs racontent comment elles ont été libérées d'un lourd poids lorsqu'ils ont obtenu leur nouveau rein, Julie ne peut s'empêcher de dire à quel point les traitements d'hémodialyse qu'elle reçoit les lundis, mercredis et vendredis, et qui ampute sa journée d'environ 4 heures à chaque fois, lui causent des maux de tête autant au sens propre que figuré et la fatiguent grandement. « Je suis une nouvelle grand-mère et je ne peux pas en profiter de ces petits-enfants. Je sais que des fois ma fille est mal prise et qu'elle voudrait que je garde, mais je ne peux pas rester réveillée pendant l'après-midi. » Quand je les garde, je deviens extrêmement fatiguée. Je ne suis pas capable de les suivre, même si je voulais le faire. C'est triste, raconte Julie. Mais même si elles ont bien réagi et que leur organisme n'a pas rejeté leur nouvel organe, Lise et Carmen, qui vivent avec un rein greffé depuis respectivement 17 et 9 ans, doivent encore s'astreindre à un régime de vie strict et prendre de nombreux médicaments. « Je dois prendre environ 35 médicaments différents chaque jour. Mais c'est ça qui est ça. Mais c'est ça que ça prend », reconnaît Carmen. « Si tu n'es pas discipliné, ta greffe ne fonctionnera pas. Il faut être ordonné avec nos médicaments et les prendre toujours aux mêmes heures. » Leur sœur Julie est quant à elle bien au fait de ce qui l'attend et se dit prête à tout faire afin que sa future greffe soit une réussite. La vie avec un organe greffé peut aussi entraîner des complications. Il n'est pas rare que des patients soient atteints par d'autres maux par la suite. Les sœurs Duval ne font pas exception à cette règle. La médication a des effets secondaires. J'ai notamment dû être opérée pour des cataractes aux yeux et j'ai eu deux cancers. Des cancers. Ce qui est encore plus triste, c'est que nous ne pouvons pas donner nos organes à notre tour. Laisse tomber, Lise. Dans le quotidien salon des animaux exotiques à poils, à plumes et à écailles, il n'était pas nécessaire de faire plusieurs heures de vol ou de traverser un océan pour se balader à dos de dromadaires ou de chameaux ce week-end. Les visiteurs du salon des animaux exotiques de Saguenay, qui avait lieu samedi et dimanche au pavillon sportif de l'Université du Québec à Chicoutimi, ont pu l'expérimenter et les cinq bêtes qui avaient fait le voyage depuis l'Ontario ne semblaient pas trop s'en plaindre. Le Salon des animaux exotiques, qui en était à sa 7e édition, a encore connu un franc succès. L'organisateur Johnny Doré s'attendait à un achalandage variant entre 21 000 et 24 000 personnes. Et l'organisateur était particulièrement heureux des nouveautés offertes cette année, notamment les chameaux et les dromadaires de Noah Terrien. Ce dernier, qui demeure en Colombie-Britannique, avait fait le voyage jusqu'à Saguenay depuis l'Ontario, où il avait participé à un autre salon. Les belles et imposantes bêtes ont évidemment attiré l'attention. Nous sommes vraiment contents car c'est une exclusivité au Québec en ce qui concerne les salons d'animaux, a fait valoir Johnny Doré. Noah Terrien, lui, était bien heureux de présenter ses animaux à la population saguenéenne. Un peu plus loin, les tortues du Jonquière-Rois Serge Compartineau attiraient également les petits et les plus grands curieux. Les tortues sulcata, soit les plus grandes tortues continentales après les fameuses tortues géantes des Galapagos. La journaliste a d'ailleurs pu tenir une gentille tortue de 7 ans seulement, mais pesant déjà 30 livres, la journaliste Patricia Rainville qui signe le texte. Le plus important exposant du salon, le Papanac Park Zoo, avait élu domicile à Lukac avec ses félins, notamment des lynx et un serval, ces wallabies et ces lémuriens, pour ne nommer que ceux-là. Nous avions pas moins de 24 nouveautés cette année. Même les dinosaures articulés ont connu un véritable succès, a ajouté Johnny Doré. Un petit bout donc de lecture de cet article intitulé « La thérapie par les chevaux » dans les pages du droit Charles-Antoine Gagnon, une nouvelle petite entreprise d'équithérapie et d'équicoaching nichée à l'Ange Gardien en Outaouais, profite déjà à des femmes victimes de violences conjugales qui cherchent à rebâtir leur confiance et leur estime de soi. Guylaine Filion, une infirmière à la retraite, a choisi de lier sa passion des chevaux et des relations d'aide en créant « Guylaine Filion Coach ». Elle possède 5 chevaux de thérapie dans son écurie. Les objectifs sont d'aider les gens à gagner confiance en eux et à nourrir l'affirmation de soi, a résumé Mme Filion lors du passage du droit sur sa terre samedi. Le cheval est un outil exceptionnel pour le développement personnel et professionnel, avance la cavalière. Les séances ne se font pas à dos de cheval, mais dans le manège, aux côtés de ces bêtes élégantes. Merci d'écouter Canal M de Vues et Voix. C'est l'émission Le quotidien des quotidiens en direct et c'est Hélène Denis qui vous accompagne. Restez avec nous dans un petit moment, les actualités culturelles et les sujets libres.